Bonjour à tous, bienvenue sur le 30 Store.
Je suis Moaz et vous êtes avec Aruna, Mamadjan, Khalil et Samba.
On est élève au lycée pro de Pont de Buis, en CAP carrosserie et mécanique auto. L'Odyssée des jeunes continue avec l'interview d'Abdoulaye Ba.
Il a 53 ans, il est malien. Ses parents viendraient de milieux différents et se sont rencontrés à l'étranger pendant leur étude. Ils ont fait un mariage d'amour contre la vie de leur famille.
Comme à son père, Abdoulaye s'est engagé dans un syndicat quand il était étudiant contre la dictature au Mali. En 1991, l'armée l'a gravement blessé pendant une manifestation, mais ça ne l'a pas découragé.
Il s'est aussi servi des premières radios libérées dans son pays pour gagner des libertés et informer les gens.
En 2001, il est venu en Europe. En Belgique et puis en France, il a beaucoup travaillé dans le bâtiment.
Aujourd'hui, il est bruitier en région parisienne, mais il apprend aussi d'autres métiers dans le secteur de la communication.
Il a aussi créé l'association IDIA pour intégrer, développer, agir et aider les rescapés à avoir des papiers et un logement.
Pour réussir sa vie, son conseil, c'est de transformer chaque difficulté en opportunité. Il dit que seul le courage permet d'avancer.
Allez, on l'écoute.
Pourquoi vous dites vos parents ont dû faire un mariage d'amour?
Mes parents ont fait un mariage d'amour parce qu'ils se sont choisis. Et personne n'a fait le choix pour mon père ni pour ma mère. Ils se sont vus, ils se sont aimés et ils se sont mariés. Et même pas au Mali, à Moscou.
Pourquoi vous n'aimez pas votre grand-père maternel?
Parce que il méprisait mon père. Il n'a jamais accepté le mariage de sa fille avec mon père. Parce que pour lui, il est riche. Et sa fille devrait choisir quelqu'un de son milieu à lui. Le mari de sa fille doit venir d'une famille aussi riche que sa famille à lui. Parce qu'il considérait la famille de mon père comme étant moins que rien, très pauvre. Voilà.
Pourquoi les enfants ne devaient pas pleurer pendant la circoncision?
Les enfants ne devraient pas pleurer pendant la circoncision parce qu'à l'époque de notre circoncision à nous, la circoncision se faisait un peu à l'âge un peu avancé quand même. Moi, dans ma tranche d'âge dans le groupe, j'étais le plus petit parce que ça se faisait en groupe. Donc... moi, j'avais 8 ans quand mon père m'a amené au village. J'étais circoncis avec mes grands frères qui avaient 15-16 ans. Donc, pleurer à cet âge-là, pendant cet acte-là, ça veut dire qu'on est pauvre, on est faible. Donc, c'est pour cela que tu ne devrais pas pleurer. Sinon, ça voudrait dire que tu es un enfant gâté. Donc, ça voudrait dire que ta mère ne t'a pas bien éduqué. Ça veut dire aussi que ton père a été faible dans ton éducation. C'est pour cela que les enfants ne devraient pas pleurer, et surtout dans notre village à nous.
C'est quoi la fétiche et la fête des fétiches?
La fétiche, le fétiche, disons, c'est un objet à qui on voue une croyance. On les met dans l'islam, le christianisme, on croit tous à Dieu, à un Dieu unique. Mais c'est quelqu'un qui croit à un fétiche, croit à un objet ou à plusieurs objets qu'il considère comme Dieu. Donc, dans ma biographie, j'ai parlé de la fête des fétiches parce qu'on était dans un village où chaque jeudi soir, la nuit du jeudi au vendredi et la nuit du dimanche au lundi, il y avait une fête organisée par le village qui s'appelait fête des fétiches. Donc, le fétiche en Bambara, de ce fétiche-là en Bambara, ça s'appelle Komo. Komo, ça veut dire une puissance suprême ou organisée par un secte des Donso. Et pas que des dossiers, mais tout ce qui est initié. Donc, quand tu n'es pas initié, tu ne dois pas sortir dehors ces deux nuits-là. Donc, c'est ça qu'il y a la fête, qu'on appelle la fête des fétiches. Mais chaque année, disons, tous les mois, c'est deux fois par mois, jeudi, vendredi. Disons, jeudi et dimanche.
Comment vous avez trouvé le courage d'aller faire la manifestation alors que les militaires vous attendent?
En fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'étais dans l'association des élèves étudiants du Mali, AEM. Et puis, j'étais le délégué de ma classe. Donc, c'est moi qui ai convaincu pas mal de personnes de ma classe pour être dans les syndicats, dans l'association AEM. Donc, du coup, vers 10h, moi, je savais qu'ils allaient tirer. Tout le monde savait que les militaires allaient tirer. Mais en tant que responsable, je ne pouvais pas rester à la maison et envoyer les autres affronter aussi. Mais pour nous, ils avaient sorti les blindés et autres. C'était pour dissuader, ce n'était pas pour réellement tirer. Pour nous, ils n'allaient pas oser tirer sur le peuple avec les armes. Mais quand on est sorti, la surprise a été qu'ils nous ont tirés. Mais on s'attendait quand même au minimum à être frappé, à être brutalisé ou à recevoir des gaz lacrymogènes, mais pas à recevoir des balles. Surtout en janvier, quand on a fait les premières manifestations, il y a toute la communauté internationale, la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, tout le monde avait dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Tout le monde avait condamné les premières répressions. Donc pour nous, ça s'arrête. Ils n'allaient pas oser recommencer. Donc, mais on est sorti, à notre grande surprise, ils nous ont tiré dessus. Mais pour nous, ils n'allaient pas arriver à cette extrémité. Ils allaient nous gazer, peut-être nous matraquer, mais pas attirer sur la population.
Qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans la radio?
Ben, la radio, c'était un objectif de lutte. Quand on a créé la radio, on s'est dit que pendant 23 ans, il y a eu les militaires qui ont dirigé. Parce que les peuples ont pu diriger pendant 23 ans, ils ont pu faire au peuple ce qu'ils voulaient. Donc il fallait créer quelque chose pour éduquer déjà davantage la population et accepter les valeurs démocratiques. On ne peut plus jamais accepter que les militaires fassent de la population ce qu'ils veulent. Donc du coup, on a créé la radio. Donc on était en contact direct avec la population parce qu'on faisait des émissions grand public. On s'est déplacé dans les villages avec nos émetteurs et autres. Donc tout le monde posait des questions, on faisait de l'animation. Donc on était toujours en contact avec la population. Donc c'était assez dynamique, c'était assez vivant. On pouvait qu'aimer ça, en fait. Parce qu'on touchait à tous les problèmes, à tous les sujets que le Mali connaissait à l'époque. Et souvent, les paysans ou les populations de la ville trouvaient eux-mêmes leurs solutions. Donc on a poussé des gens à lutter contre la vente de leurs lieux de travail, c'est-à-dire des usines et autres. Donc tout ça, c'était un grand plaisir. On a pu empêcher la vente d'usines. On a pu faire de telle sorte que l'État distribue de l'engrais aux paysans et tout ça. Donc ça, c'était un grand plaisir à l'époque. À l'époque, en fait, les radios représentaient à l'époque ce que Facebook, TikTok, YouTube et tout ça représentent maintenant. Et avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que les radios au Mali pour dénoncer ou pour galvaniser et disons, motiver les gens à ne pas se laisser faire ou donner de meilleures idées pour entreprendre, pour réussir leur vie, en fait.
Avez-vous finalement eu le statut de réfugié politique?
Ben, le statut de réfugié politique, je ne l'ai pas eu. On m'a refusé. Et, après 9 mois d'attente, quand même, on me donnait chaque fois des récépissés. Après, on m'a même donné une obligation à quitter le territoire. J'avais un délai d'un mois et je n'ai pas quitté. Mais entre-temps, j'ai pu trouver une solution en me mariant. Donc du coup, ça a été levé et j'ai pu avoir mes papiers comme ça. Voilà. Sinon, je n'ai jamais eu le statut de réfugié politique. Et tout ça, ça m'a motivé par la suite à créer une association pour, quand j'ai compris le système, pour aider d'autres à remplir leurs documents de demande de réfugié politique. Parce que souvent, quand tu viens de certains pays, parce qu'il y a la guerre, toi tu viens, j'ai fui le Mali parce qu'il y a la guerre. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a la guerre que tu as fui ou parce que ta vie était en danger? Quand tu demandes, si tu ne démontres pas dans ton récit que ta vie était en danger, tu n'as pas le droit de recevoir le truc parce que pour eux, quand tu parles de la généralité souvent n'est pas ton propre cas. Donc, il faut citer ton cas particulier. Est-ce que ta vie a été menacée? Est-ce qu'on t'a déjà tiré dessus? Est-ce qu'on t'a déjà mis en prison? Est-ce que... Mais par rapport à toi-même, ta vie. Donc, à l'époque, moi, je ne savais pas ça. J'ai écrit la généralité. Donc, la généralité, ce n'était pas mon récit. C'était la situation générale. Mais je n'ai pas pu démontrer que ma vie était en danger. parce que je ne savais pas. Et quand j'ai su, donc j'ai été intégré ça dans les activités de mon association pour aider les autres arrivants à rédiger leurs récits, leurs histoires qu'ils présentaient à l'Office français, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. L'organisme qui traite ces dossiers-là, ça s'appelle OFRA.
Où avez-vous appris le français?
J'ai appris le français à l'école parce que au Mali, la loi dit qu'on doit être scolarisé à l'âge de 7 ans. Donc moi, j'ai eu la chance, comme je vous ai dit dans les récits tout à l'heure, mes parents ont été à l'école. Donc ma mère, vu qu'elle devrait elle aussi étudier, elle m'a mis à l'école très tôt aussi. Donc du coup, c'est à l'école que j'ai appris. À l'âge de 5 ans, moi, j'ai été scolarisé. Voilà. Donc je continue à étudier d'ailleurs. Et même le mois prochain, je dois commencer une formation pour mieux maîtriser l'IA, l'intelligence artificielle. Et pourtant, j'ai 54 ans. Bientôt, j'ai 54 ans.
Ça fait dire quoi pour vous s'intégrer?
Pour moi, s'intégrer, c'est déjà... au fait, dans chaque pays, il y a des règles de vie. Au Mali, il y a les règles. En France aussi, il y a les règles. C'est-à-dire, il y a des choses que la société accepte. Il y a des choses que la société n'accepte pas. Ce que la société accepte ne veut pas dire forcément aussi ce que la loi accepte et tout ça. Donc, c'est de se conformer à toutes les choses que la loi dit déjà. Parce que tu ne peux pas venir dans un pays et puis faire ta loi. Et la loi d'ici est différente de la loi de chez nous. Donc, je dois m'adapter à ce que la loi veut ici et à ce que la société aussi veut ici. Donc, c'est ça, être intégré, ça veut dire accepter les valeurs qui font de la vie d'ici ce qu'elle est. Voilà, par exemple, vous tous là, quelque part, vous êtes des musulmans, mais je ne vous vois pas avec un chapelet. Ça veut dire que vous avez accepté ça, parce qu'on est à l'école. L'école, c'est un endroit public où les religions n'ont pas leur place. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'accepter la laïcité. Donc, c'est une partie de l'intégration. Donc, pourquoi vous apprenez aussi à parler français? C'est comprendre aussi ce que les lois disent. Donc, l'effort que votre maîtresse fait pour vous faire comprendre l'essentiel aussi et à travers l'apprentissage déjà de la langue française.
Vous pouvez nous donner un conseil pour réussir sa vie?
Bon, le conseil que je peux vous donner, c'est de transformer chaque difficulté en opportunité. C'est-à-dire de ne pas voir que c'est parce que c'est difficile, je dois abandonner, je dois chercher obligatoirement le chemin le plus facile. C'est pas ça. Sinon, tu vas tomber dans les choses où après, tu vas regretter. Donc, il faut déjà croire à toi en disant que même si c'est difficile, cette difficulté-là peut être une occasion pour moi d'avancer. Donc, seul le courage peut permettre d'avancer. Il ne faut jamais abandonner ses rêves. Mais il ne faut jamais aussi prendre le chemin le plus rapide. Souvent, c'est ce qui t'amène à ta chute, à ta destruction. Même si tu vois que le chemin il est long, avec le courage, tu vas arriver un jour. Déjà, en quittant la Mauritanie pour venir ici, c'est un long chemin, mais pourtant tu n'as pas abandonné. Donc, le même courage, tu dois dire, bon, avec ce même courage-là qui m'a fait traverser tout l'océan là, pour venir jusqu'ici, si je prends le courage-là, je vais apprendre mieux la carrosserie ou la mécanique ou le carrelage, mais je peux devenir encore beaucoup plus. Par exemple, moi, c'est à 45 ans que j'ai arrêté le métier de grutier avant. Pour retourner à l'école, j'ai fait une première formation parce qu'un diplôme universitaire me manquait. Parce que je n'avais pas eu ça ici. Donc j'ai fait une formation pour être community manager. C'est-à-dire les publicités que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est nous qui les impulsons sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes Facebook, à un moment donné, il y a la publicité qui vient. Même si tu ne le demandes pas. Ou quand tu demandes TikTok, tu es sur TikTok, souvent il y a la publicité qui vient. Ou sinon, si tu es sur YouTube, souvent, la publicité s'impose. Ces publicités-là, c'est nous qui les fabriquons. Donc, j'ai fait ce premier diplôme-là. Après, ça ne me suffisait pas. Je suis retourné à l'école encore deux ans plus tard pour faire une autre formation, pour être chef de projet, toujours dans le même domaine, mais un peu pour avoir un niveau plus supérieur, pour devenir chef de projet communication digitale. Et dans 3 mois, mais ça, je vais le faire à distance, ça ne va pas m'empêcher de travailler. Et je vais faire une autre formation pour mieux comprendre l'IA, l'intelligence artificielle. Parce que quand l'intelligence artificielle est venue, moi, j'étais auto-entrepreneur. Donc, je ne pouvais plus trouver de marge. On ne nous donnait plus de site à créer, ni d'application web à créer, parce qu'avec l'IA, tout le monde peut faire ça maintenant. Mais l'IA ne peut pas tout faire. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur de 3 à 4 000 euros, je me suis retrouvé souvent à avoir que 1 000 euros par mois. Donc, du coup, par le même courage, là, je suis reparti refaire le permis de la grue. Parce que la grue, ça te conduit avec un certificat qui s'appelle CACES, certificat d'aptitude de conduite en sécurité. Donc, refaire ça. Et maintenant, je suis grutier. Pour venir ici, je me suis fait remplacer par un collègue pour la journée d'aujourd'hui. Mais si je n'avais pas le courage, j'allais peut-être dire, bon, je vais m'approcher des dealers et puis voilà. Mais je suis retourné sur le bâtiment, dans la cabine de grue maintenant. Ouais, j'ai toujours du boulot. Voilà. C'est le courage seulement qui paye.
On espère que ça vous a plu. On remercie Abdoulaye. Restez à l'écoute des transistors.
Kenavo.
Fizier.
Alors là, t'as bien dit res, mais non, mais pas res.
Peut-être que je pourrais couper le S au montage.
Mais moi, j'écoute pas, j'entends pas. Est-ce que
non, attends, je le fais.